Bonjour et bienvenue, podcast Perspective numéro 7, édité par le blog Intelligence et Frustration. Et aujourd'hui, on va parler de biologie, donc on va mettre en relation quelques découvertes de ces dernières semaines, ces derniers mois, et aussi un peu d'imagination, et pour découvrir, pour essayer de discerner les tendances à venir, donc dans le domaine de la biologie, tracer les perspectives. Donc là, on va revenir, dans un premier temps, on va revenir sur l'annonce à propos du cycle métabolique du carbone, qui donc a été accéléré. Donc c'est-à-dire le cycle, comment les plantes font pour utiliser donc le carbone atmosphérique pour faire du glucose, en gros. Et tout ce cycle a été accéléré. C'est-à-dire que pour chaque étape du cycle, il y a des enzymes. Et en fait, les chercheurs ont pioché dans la nature les enzymes les plus efficaces de chaque espèce, de chaque genre, pour augmenter justement la productivité de l'efficacité de ce cycle. Pour créer comme des plantes qui seraient plus efficace encore. Comme on le sait, les plantes n'ont pas seulement besoin de carbone atmosphérique et de lumière pour la photosynthèse, mais pour leur métabolisme, elles ont besoin d'éléments nutritifs tels que l'azote et entre autres tels que l'azote et le phosphore. Et donc souvent, surtout dans nos agricultures actuelles productives, l'azote est un élément limitant. Et je pense que ça serait intéressant de se replonger justement sur ce facteur limitant et de regarder l'exemple des légumineuses, par exemple des betteraves, qui vivent en symbiose avec des bactéries qui fixent l'azote atmosphérique. Donc une source d'azote quasi illimitée. Et donc cette symbiose a lieu à l'intérieur des racines avec des petites poches où se développent ces colonies de bactéries. En fait, justement, avec cette coévolution avec les racines, avec les betteraves, certaines bactéries ont même délaissé des fonctions métaboliques de base, qui donc, puisque ces fonctions sont assurées par la betterave elle-même, qui les alimente. Donc on peut encore pousser plus loin ce concept de symbiose, et on peut en fait, à l'instar des chloroplastes, c'est-à-dire ces petites vésicules, on parle d'organites, donc c'est des petites vésicules à l'intérieur des cellules de la plante, et sont les éléments qui sont responsables des organites, qui sont responsables de la photosynthèse. Et en fait, à la base, les chloroplastes, c'était une cyanobactérie qui s'est fait absorber, phager par une bactérie. Donc c'était, en fait, c'était pareil, c'était deux éléments vivants indépendants, bactéries et cyanobactéries, qui ont commencé à vivre en symbiose, et peu à peu c'est devenu un seul être vivant. Donc on peut imaginer une telle évolution avec les bactéries qui fixent l'azote et l'ensemble des végétaux hyper productifs, donc quoi, les végétaux transformés par l'homme qui sont utilisés dans l'alimentation. En fait, comment ça marcherait? En fait, donc il faudrait créer un nitroplaste, c'est-à-dire on prend toutes les... On regarde le gène de notre bactérie qui piège l'azote atmosphérique et on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, dans le sens où toutes les fonctions en fait vitales biologiques de base seront assurées par la cellule de la plante elle-même, comme c'est le cas pour le chloroplaste. Je crois qu'un chloroplaste, par exemple, ça a environ 200 bases de génétiques, alors qu'une petite cyanobactérie, ça en a 10 fois plus. Donc pour montrer un peu les proportions. Après on aurait en fait ce nitroplaste qui se comporterait comme un chloroplaste, donc qui serait transmis de génération en génération. En fait, nous, on a la même chose avec nos mitochondries. C'est exactement le même procédé. À la base, c'est très vraisemblable que ce soit une bactérie, une petite bactérie qui a été mangée par une autre bactérie. Et pareil, donc la mitochondrie et les chloroplastes ont leur propre, en fait, leur propre ADN. On parle d'ADN mitochondrial, par exemple. Et donc voilà, donc à l'instar un peu du chloroplaste, on aurait un nitroplaste. Donc ça, c'est des recherches en fait qui sont effectuées, je crois que c'est par le MIT notamment. Donc en fait, ce serait plutôt intéressant justement pour les céréales, qui donc sont très dépendantes de l'engrais azoté. Bon, après, il y a peut-être le phosphore qui peut... Il y a sûrement le phosphore qui va très vite limiter. Mais on va aller plus loin. Donc on a notre cycle carbonique qui est amélioré, comme je disais dans le premier point. Le deuxième point, on a notre nitroplaste. Donc l'azote n'est plus un élément limitant. On peut aussi s'amuser à penser que pourquoi en fait on utilise, pourquoi les plantes sont vertes. Parce qu'on n'utilise que de la chlorophylle principalement, c'est que de la chlorophylle A, donc qui absorbe le vert, pardon, donc qui absorbe le bleu et le rouge, et donc la seule lumière qui est réfléchie, c'est le vert. C'est pour ça qu'on voit donc les plantes en vert. Mais on pourrait s'amuser à créer d'autres chlorophylles, d'autres pigments qui absorbent cette fois le vert, et donc on aurait des plantes complètement noires, mais qui aurait un spectre d'absorption qui est plus grand. Bon, en fait, ça donnerait... Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la chlorophylle A, mais il y a d'autres chlorophylles, par exemple la chlorophylle rouge, la chlorophylle brune. Mais en fait, bon, pourquoi on n'a pas de plantes noires? Parce que ce qui compte, ce n'est pas la largeur du spectre qui est absorbable, mais quelle est la partie du spectre qui est la plus efficace, en fait. Puisque finalement les cellules végétales, c'est un espace limité, et vaut mieux mettre des chloroplastes qui captent le spectre le plus énergétique, et pas toute une rangée de chloroplastes pour s'amuser à capter l'ensemble du spectre. Mais bon, on va imaginer qu'il y a un certain sens, et que quand même dans certaines conditions, ça améliore, généralement ça améliore la productivité de la plante. Donc vous voyez, on a déjà trois points. On a accéléré le rythme, le cycle métabolique. On a enlevé un facteur limitant, l'azote. Et maintenant, encore au-dessus, on a augmenté le spectre d'absorption. Donc on peut absorber toutes les lumières. Donc on est aussi plus efficace, dira-t-on. Ok, et donc là, on peut imaginer que petit à petit, en fait, on commence à créer une espèce de gelée verte, un peu à l'instar de la grès égout. Donc vous savez, ce scénario catastrophe qui pourrait résulter des nanotechnologies autorréplicantes, c'est-à-dire qu'une petite machinerie mangerait entre guillemets l'ensemble des éléments de l'environnement, de l'écosystème, pour s'autorépliquer. Et donc, de la sorte, recouvrirait l'ensemble du globe. Et en fait, on peut imaginer un scénario similaire, mais cette fois avec les végétaux, donc green goo, gelée grise, avec cette super plante, améliorée, avec ces processus de photosynthèse ultra ultra efficaces pour capter, qui capterait donc le CO2 atmosphérique. En fait, c'est une méthode pour séquestrer le CO2 atmosphérique et donc diminuer l'impact du réchauffement. Et donc, on peut imaginer toutefois de tels débordements tels que la Green Goo. Aussi, et à l'inverse, on peut imaginer que le système s'emballe, donc que nos super végétaux, nos végétaux augmentés génétiquement, pomperaient beaucoup trop de CO2 atmosphérique, et donc on aurait une glaciation. Bon, mais après, il y a vraiment, c'est pas aussi simple, parce qu'il y a énormément de système de balancier, de système d'autorégulation, on va dire. Puisque, en fait, déjà à l'heure actuelle, la concentration atmosphérique en CO2 et les températures sont des facteurs limitants lorsque les végétaux sont en condition optimale, c'est-à-dire avec les nutriments nécessaires. Donc, si vous super végétaux pompent trop de CO2, le CO2 va devenir un facteur encore plus limitant. En plus, moins de CO2, donc dans l'atmosphère, donc il va peut-être faire un peu plus froid. Et pareil, la température va devenir encore plus limitante. Voilà. Aussi, comme tu parlais, il y a quand même d'autres éléments. Il n'y a pas que le phosphore. Il y a notamment le. Pardon, il n'y a pas que l'azote, il y a aussi le phosphore commence vraiment à devenir un problème, puisqu'on parle notamment que le pic, un peu comme on parle du pic du pétrole, en fait, il y a aussi le pic de phosphore qui devrait même arriver assez rapidement, puisqu'on parle de 2030. C'est-à-dire que donc dans 15 ans, une quinzaine d'années, on va atteindre le maximum du phosphore et les prix vont commencer à être vraiment vraiment très 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 élevés. Alors on commence à penser justement à des solutions technologiques, bon, que ça soit recyclage du caca ou des trucs axés sur la filière des stations d'épuration, mais aussi génétiquement. Donc il faut savoir que les plantes absorbent le phosphore sous une forme particulière, le phosphate. Mais ce problème, c'est qu'en fait, donc ce phosphate qui est épandu par les agriculteurs comme engrais, il est utilisé seulement à hauteur de 20% par les plantes. Et le reste, en fait, c'est surtout utilisé par les bactéries du sol, par les champignons, puisqu'en fait c'est un élément qui est quand même assez dur pour les plantes, c'est un élément qui est assez dur à être absorbé, parce que le phosphore c'est une particule qui s'attache bien à l'argile, qui s'attache bien au sol. C'est pas un élément autant soluble que l'azote, qui est absorbé sans problème par les plantes. Et donc en fait une des et donc en plus il y a ce phénomène de compétition avec les bactéries et les champignons du sol. Et donc les voies qui sont envisagées, c'est on va pas utiliser du phosphate, mais du phosphite, c'est-à-dire une autre forme du phosphate qui n'est pas utilisée par les autres formes du vivant, c'est-à-dire qui n'est pas utilisée justement par les bactéries et champignons dont on parlait.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va génétiquement on va transformer des plantes pour qu'elles absorbent, pour qu'elles puissent absorber ce phosphite. Donc, contrairement aux autres êtres vivants qui ne peuvent se contenter que du phosphate.
Sinon, une autre voie, c'est que certains champignons marchent très bien en symbiose avec les plantes. Donc même ils vont pousser en partie à l'intérieur de la plante. Mais ils marchent très bien pour aller pomper le phosphore, pour le mettre en solution. Donc c'est bien plus que ça marche mieux. Bien plus que les racines elles-mêmes, puisque déjà ces champignons couvrent une surface plus importante, ils se développent beaucoup plus rapidement. Donc aussi voir les phénomènes de symbiose donc entre végétaux et ce champignon. Voilà. Alors l'idéal ce serait aussi de s'amuser un peu avec tout ça, s'amuser à terraformer, non pas forcément à terraformer, mais à ensemencer les autres planètes. Il y avait un chercheur dont je n'ai plus le nom ici, donc qui était spécialisé en exobiologie. Il disait, en gros, si on ne trouve pas le vivant, si nos recherches montrent qu'il n'y a pas de vivant sur Mars, sur Europa, donc ce satellite, sur Io, donc c'est des satellites qui ont des océans en interne sous une calotte glaciaire. Donc ils peuvent potentiellement abriter la vie. Donc je continue ma phrase, s'il n'y a pas de... Si finalement on trouve vraiment pas de biologie, de vivant sur ces planètes, bah tant pis, c'est à nous, à l'homme, de le créer. C'est à l'homme d'ensemencer ces planètes, parce que de toute façon le vivant sera toujours plus beau que la matière inerte. Donc c'est ça réfléchir, et notamment comment avec les recherches actuelles on peut augmenter les capacités des végétaux. Donc on a beaucoup parlé des végétaux, des plantes. Maintenant passons rapidement à l'humain et au virus. Et notamment en fait avec l'enzyme CRISPR, qui permet vraiment de faire du copier-coller au niveau génétique. Puisque c'est en fait c'est avec une enzyme. Et on peut donner à cette enzyme l'information où concrètement elle doit couper. Et ça c'était vraiment une révolution ces dernières années, puisqu'avant en fait quand on s'amusait un peu à modifier génétiquement, donc on insère un génome, on savait pas vraiment, en fait on tirait un peu, c'était un peu au pif quoi, on savait pas vraiment où ce gène allait concrètement être incorporé dans l'ADN. Mais justement avec CRISPR, on peut vraiment cibler l'endroit où on veut. Donc cibler un gène et le changer par un autre gène. Et ce qu'on peut s'amuser à faire en fait, c'est créer des petits virus qui vont comporter nos propres gènes. Par exemple, on va dire, moi je me trouve super beau, super intelligent, donc je vais découper mon gène en petits bouts, par exemple tout ce qui va, par exemple les yeux, tout ce qui définit la couleur des yeux, et ces petits bouts de gène, donc je vais le mettre dans un virus avec CRISPR, et donc en lui donnant comme indication de ouais, tu dois retrouver donc le gène qui code pour les yeux, et tu vas changer chez l'autre, donc chez la personne atteinte, la personne cible. Tu vas lui changer le gène codant pour les yeux par mon propre gène. Donc que je vais intégrer à ce virus. Et voilà, donc après disséminer ce virus, et donc ne plus voir après l'héritage, un héritage génétique uniquement vertical, c'est-à-dire avec sa descendance, avec ses enfants, mais aussi horizontal grâce à ces virus. Et donc on peut l'imaginer une espèce de petite guerre biologique comme ça, où chacun va essayer de répandre au maximum son matériel génétique, puisqu'en fait c'est le but un peu de la reproduction, grâce à ces petits virus. Donc je pense que ça, c'est dans les biohackers, dans les 5 ans qui viennent, ce sera un gros enjeu, un gros enjeu pour eux, et je pense que ça deviendra déjà un phénomène assez courant. Déjà que en fait dans un cadre professionnel, moi j'avais déjà interrogé dans une conférence, dans les couloirs, j'avais déjà interrogé une généticienne, et je lui avais demandé, justement j'avais déjà eu cette idée, est-ce qu'on pourrait pas s'amuser à mettre on prend un virus de la grippe, on lui enlève tout son bagage génétique, et à la place on lui met. Je lui mets une petite partie de mon virus, de mon génome, pour me répandre, pour me reproduire. Et en fait, elle a un petit sourire gêné en disant bon, je crois que ça se fait. Je crois que je suis à peu près sûr que ça se fait déjà. Donc voilà, et ça c'était avant CRISPR. Donc ça, à mon avis, ce sera vraiment une tendance forte, assez rigolote, assez peut-être malsaine des prochaines années à venir. Sur cette note positive, sur cette perspective positive, on se quitte. À bientôt. C'était Intelligence et Frustration avec son podcast Perspective.